Radio Immo, la parole aux pros de l'immobilier.
Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Immo. On va parler crédit immobilier après une reprise en 2025. À quoi ressemble le marché en 2026? Pour décrypter justement la tendance et donner des conseils très concrets aux emprunteurs, je reçois Ludovic Usieux. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Cofondateur d'Artemis Courtage. Et alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet hein, pour un peu mettre la couleur. C'est dans une note publiée début février, vous dites les emprunteurs doivent préparer sérieusement leur dossier. Donc on va voir pourquoi. Alors, première question, vous avez annoncé 145 milliards d'euros de prêts en 2025 hors renégociation. Qu'est-ce qui explique cette reprise ?
Bon, il y a plusieurs facteurs. D'abord, une sortie de crise. On a connu en 2023-2024 deux années de crise du crédit immobilier qui était la conséquence de plein de choses, mais notamment d'une hausse très brutale des taux de crédit qui étaient en moyenne aux alentours de 1,10 et qui étaient passés au plus haut à 4,50. Donc on a vécu une année de retour à la normale, une année de tranquillité, une année de redémarrage. L'autre chose qui a bien aidé ce marché à redémarrer, c'est que les banques qui avaient un peu fui le crédit immobilier pendant deux années sont toutes revenues à la table du crédit en 2025. Et évidemment, quand elles sont au diapason, quand elles sont toutes prêteuses, c'est beaucoup plus simple de faire augmenter les volumes de crédit.
Donc on est d'accord là aujourd'hui, toutes les banques prêtent à nouveau, toutes les banques, que ce soit partout en France, proposent des crédits immobiliers aux Français.
Exactement, pour tout type de projet, tout type d'emprunteur. 2025 avait été notamment marqué par le retour des prêts bonifiés distribués par les banques, c'est-à-dire qu'elles aidaient les emprunteurs avec des poches de crédit immobilier qui étaient effectivement limitées dans le montant ou en pourcentage, mais qui permettaient de donner un coup de pouce. C'est des offres qui ont été reconduites en 2026. C'est de 25 à 50 000 euros aux alentours de 1,52% selon les établissements bancaires. Ça permet en taux moyen de faire baisser la facture du taux d'intérêt et c'est une très bonne chose et un très bon indice pour avoir la concrétisation de cet appétit des banques en 2026. Elles étaient là en 2025, elles continuent de prêter en 2026.
Alors justement, on emprunte à quel taux en février 2026?
C'est une rentrée très légèrement haussière, mais on va dire que c'est des ajustements plus que des hausses véritables en réalité, puisque pour tout type de dossier, on peut encore aujourd'hui... Alors, tout type de dossier. Pour un excellent dossier, on peut encore emprunter en taux nominal en dessous de 3%, mais ça devient un petit peu l'exception.
Sur 25 ans?
Sur 25 ans, sur 20 ans, sur toute maturité. En réalité, aujourd'hui, en taux moyen, sur 20 ans, c'est plutôt aux alentours de 3,25.
D'accord.
Et plutôt 3,45, 3,50 sur 25. Mais on voit qu'il y a une prime au joli dossier aujourd'hui.
Ouais. C'est quoi un joli dossier?
Un joli dossier, c'est un dossier bien préparé, comme vous l'avez dit en introduction, à savoir de l'épargne, un taux d'endettement qui sera en dessous de 35% assurance incluse. Et puis, il ne faut pas se cacher, c'est aussi un dossier que la banque aura envie de faire pour des considérations de revenus importants dans le dossier des emprunteurs. Et donc, un espoir, entre guillemets, pour la banque de faire des affaires avec ce type de clients et d'avoir un produit net bancaire intéressant sur ce type de dossier. C'est comme ça qu'on pourra négocier les derniers pourcents de taux de crédit. Mais on va dire que les taux sont en légère remontée, rien de dramatique. Et encore une fois, on peut encore emprunter sous 3%. À titre exceptionnel, pour certains beaux dossiers, ça veut dire que la remontée, elle n'est pas fantastique, c'est vraiment en pente douce.
Quand vous dites qu'il faut un bon dossier, c'est un dossier qui a de l'épargne de côté, on est d'accord, c'est en plus de l'apport. C'est-à-dire qu'il y a l'apport, c'est mieux d'avoir de l'apport.
On va dire que le strict minimum, si vous voulez que votre dossier rentre dans la file des analystes des pôles bancaires et qu'il ait toutes ses chances d'avoir le tampon accepté, c'est mieux d'avoir au minimum les frais. Les frais représentent les frais de notaire, les éventuels frais d'agence immobilière, les frais de garantie, les frais de dossier bancaire, les frais de courtage. On va dire que tout ça représente environ 10%,
d'accord. 10%
du coût total de l'opération, exactement. À partir du moment où vous avez ces frais en apport, vous pouvez très bien envisager un achat immobilier. Les banques sont d'accord pour prêter jusqu'à hauteur de la valeur du bien. Si un appartement ou une maison vaut 300 000 euros, vous pouvez demander un crédit de 300 000 euros. Il vous faudra apporter en réalité 30 000 euros d'apport pour couvrir les frais.
Alors, on va parler de vos clients. Le profil moyen chez Artemis, c'est quoi ? C'est qui ?
Alors, c'est qui ? D'abord, c'est le retour aussi 2025. C'est pour ça que le marché s'est bien tenu. C'est le retour des primo-accédants qui avaient un petit peu déserté. C'était pas de leur faute. C'était les premières victimes de la crise du crédit. En règle générale, c'est effectivement les profils qui sont...
Donc, c'est plutôt des jeunes qui achètent pour la première fois. Hein,
exactement.
C'est,
c'est le retour des primo-accédants en 2025. Donc, environ 40% de nos clients sont des primo-accédants. À presque 90% en finance de la résidence principale. Donc, c'est vraiment des projets de vie pour s'y loger. Le prêt moyen est un peu au-delà de 250 000 euros. On a une durée d'emprunt moyenne qui est un peu au-delà de 22 ans chez Artemis Courtage, un âge moyen aux alentours de 36 ans. Et on a, en 2025, pour ma société en tout cas, fait la meilleure année depuis la création en 2009.
D'accord.
Quand je vous dis c'est un retour à la normale.
En termes de quoi ? De volume de...
De volume de crédit négocié, de chiffre d'affaires, tout concorde. Et c'était une année de retour à la normale et même à l'exceptionnel pour nous, puisque c'était la plus belle année depuis la création.
Alors justement, est-ce que vous parlez de la résidence principale, donc 90% des transactions en tout cas que vous avez accompagnées, c'était pour des résidences principales. Les investisseurs donc sont partis, est-ce qu'on peut le dire ? Est-ce qu'ils ont déserté ? En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les chiffres côté transactions. Mais souvent, les investisseurs, ils passent obtiennent un crédit, c'est ça l'avantage hein, d'investir dans la pierre.
C'est de faire le levier avec le crédit, tout à fait. Alors ils ont déserté, je dirais plutôt qu'on les a bien aidés à quitter le bateau.
Alors j'ai pas expliqué pourquoi, ils sont partis.
Non c'est ça, c'est que pour le coup, et effectivement c'est la première année depuis la création de mon réseau en 2009 que le financement à l'investissement locatif représente moins de 10% de la totalité de mes encours et de mes volumes de crédit négociés.
Donc c'est du jamais vu.
C'est du jamais vu et c'est quand même un indice qui n'est pas très favorable, je vous le concède. Pourquoi ? Pour plein de raisons en réalité. La hausse de la fiscalité immobilière et de la pression immobilière, ça coûte plus cher de devenir propriétaire et plus cher de devenir propriétaire bailleur.
Oui.
C'est la première chose. La seconde chose, c'est que les taux de crédit se sont envolés pendant que les prix ont très légèrement baissé, mais en tout cas tout ça ne s'est pas rencontré au beau milieu, c'est-à-dire que les taux de crédit ont été multipliés par 4 en 2 ans et on a perdu 6, 7, 8, 9, 10% pour les zones qui ont été les plus touchées par la baisse des prix. Vous voyez bien que ça ne sert pas à combler l'écart. Donc l'opportunité, elle n'est pas énorme. Les rendements ne sont pas fantastiques pour un éventuel propriétaire bailleur. Et puis, je rajouterai à cela, évidemment, la fin de toutes les lois de défiscalisation immobilière.
Il y avait des...
Voilà, exactement. On pouvait envisager de faire de la défiscalisation sans jamais perdre à l'esprit, évidemment, que c'était un achat immobilier. Mais en tout cas, on pouvait déduire ses intérêts d'emprunt. On pouvait, sur une période... amortir, avoir un avantage, une réduction d'impôt, tout ça n'est plus possible, en tout cas plus sous les formules de loi de fiscalisation qui en général étaient données par le ministre du logement de l'époque, on n'en a plus.
Justement, le Pinel, la fin du Pinel, ça s'est répercuté comment sur vos chiffres ? Est-ce que vous avez de la data par rapport à ça ?
Ouais, on a un peu de données.
L'impact réel, en tout cas, de la fin de ce dispositif ?
Bah, l'impact réel, je vous dis, c'est que pour le coup, on est passé
en, 10%.
Voilà, en deçà de 10% de volume de crédit négocié. Et puis, ce qui est intéressant de...
Et en 2024, c'était les investisseurs représentaient combien, justement ?
C'était un petit peu au-dessus de 12. Donc c'était, mais ça continue, en réalité. Ce qu'il faut voir, c'est
ça
la pente.
Continue,
ouais, c'est ça. La pente, en 2019, j'ai quasiment 20% de mes crédits qui sont du crédit destiné à l'investissement locatif.
Mais les taux étaient à 1%, 1,5%.
Aussi, effectivement, oui, bien sûr. Et puis, il y avait des lois de défis, puis la pression ou la fiscalité immobilière était plus basse. Mais en tout cas, en pourcentage, c'est divisé par 2 en 5 ans. En réalité, avant, je finançais à peu près 80% dans le neuf. Je finançais à peu près 80% de crédits qui étaient destinés à l'investissement locatif. En 2025, c'est à peu près l'inverse sur le neuf. C'est-à-dire que j'ai quasiment trois quarts de mes crédits qui vont financer de la résidence principale dans le neuf et 25% sur de l'investissement locatif, mais sans aide particulière, c'est-à-dire que vous achetez un appartement sur plan, ouais, en imaginant qu'il servira à préparer votre retraite ou à y loger vos enfants pendant les études supérieures, sans aide particulière.
Alors justement, le dispositif a annoncé le plan relance logement avec notamment le dispositif Jean Brun, qui est censé inciter les Français à investir dans la pierre. C'est quoi votre avis sur ce dispositif, sur l'amortissement notamment, enfin ce...
Bah, je...
On est entre nous.
Hein. Oui, non, on est entre nous. Ça va pas renverser la table, ça va pas créer une tendance, ça va pas créer des comportements vraiment intentionnels à l'achat.
Donc ça va pas faire revenir les investisseurs, si je vous suis.
Je ne le pense pas.
Pourquoi ?
On est plutôt de l'ordre de la mesurette en montant que quelque chose qui va réellement déclencher les achats. En réalité,
c'est quoi qui va pas dans ce dispositif ?
Bon, les montants d'amortissement, la durée, tout ça me paraît encore un peu timide en réalité. Après, moi, je me mets évidemment à la place de tout le monde, y compris des décideurs qui font face à des caisses particulièrement vides dans un système à rebooster. Donc, c'est compliqué. Et donc, je salue au minimum l'intention de vouloir le faire. En réalité, je pense que c'est, en tout cas, ça ne déclenchera pas des comportements à l'achat. Après, on est aussi sur des systèmes qui ont été sous perfusion d'argent public pendant longtemps. Et on s'aperçoit que quand il n'y en a plus, c'est compliqué. Et que pour le coup, on a un vrai problème de fonds, de logement, y compris de coût du foncier, de mise en chantier, de prix de la main-d'œuvre, des matières premières, etc. etc. qui, dans le neuf, donne un marché qui est complètement atone et le plus mauvais depuis des décennies.
C'est vrai qu'il y a une crise qui est structurelle et conjoncturelle.
Elle est, à mon avis, plus structurelle que conjoncturelle. Je pense qu'on est quand même vraiment...
Là, l'augmentation des matières premières, l'augmentation du foncier, c'est structurel également. Enfin, c'est conjoncturel également, pardon.
À la croisée des chemins, mais ça fait tellement... Enfin, je veux dire, on est plus dans un... On n'est plus dans la conséquence d'un seul facteur.
Ouais, là c'est multifacteur.
Exactement, c'est multifacteur. Et puis ça fait tellement longtemps qu'on sonne les sonnettes d'alarme à peu près chaque année et à peu près dans chaque corps de métier, chaque fédération, qu'à force de crier au feu, maintenant les flammes elles font 10 mètres en réalité sur le marché du neuf en particulier. Et je ne suis pas certain, et c'est des cycles longs en réalité. Donc évidemment, on a des certitudes déjà pour 2026-2027, et puis on verra ce qui se passera après, voir s'il y a des éclaircies. Mais
les certitudes sur 2026-2027? Ça va continuer, la crise va s'installer, la crise du logement.
Oui, c'est ça, en tout cas dans le neuf. Dans le neuf, ça va être compliqué, puisque l'obtention d'un permis de construire, les mises en chantier, sorties de terre... Et un bien qui est propre à la commercialisation, en tout cas à la réception, il y a forcément 2 ou 3 ans. Donc avec les chiffres qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui, on sait déjà que les 2 années prochaines vont être très compliquées.
Oui, c'est des temps longs.
C'est des temps longs, donc effectivement, qui sont des temps souvent bien plus longs que les mandats des politiques et des ministres ou secrétaires d'État au logement. Et effectivement, c'est probablement un des problèmes. Donc voilà, de ce côté-là, ça a été plutôt une belle année sur l'immobilier, mais qui a été particulièrement tenue par le marché de l'ancien, transactionnel, à destination, des résidences principales. Quand on a dit ça, il y a tout le reste qui était quand même moins folichon.
Alors, justement, bon, on va revenir à l'obtention du crédit. C'est quoi vos conseils pratiques pour bien préparer son dossier? Donc là, on s'adresse plutôt à ceux qui veulent acheter leur résidence principale.
Les conseils pratiques, ils sont, c'est souvent des conseils de bon sens et des conseils qu'il faut s'appliquer à soi-même quand on est dans une période de réflexion, à savoir d'avoir un dossier bien préparé. On pouvait arriver à l'achat il y a quelques années en se posant la question un matin en se levant, c'était pas très compliqué, on pouvait emprunter quasiment sans apport ou avec vraiment des faux frais. On pouvait emprunter sur 30 ans à des taux d'endettement qui dépassaient 35%. On est normé maintenant, donc il faut quand même bien préparer le dossier, avoir eu recours en amont à des simulations bancaires ou des simulations de courtier. Il faut montrer patte blanche au moment où on prépare son dossier ou où on va chercher activement un bien immobilier et faire des offres. Ça veut dire que on a de l'apport. Si on n'en a pas assez, on a sollicité toutes les personnes qu'on pouvait solliciter dans son entourage, à commencer par la solidarité intergénérationnelle, les grands-parents, les parents, etc. C'est des années, là, depuis 3 ans, où on n'a jamais eu autant d'apports en montant, et toutes les statistiques se croisent. C'est des montants qui sont assez fous, en réalité, en moyenne, au-delà de 60-70 000 euros. Ce qui est quand même pas donné à tout le monde, et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de primo-accédants qui ont été laissés sur le bord du chemin.
Oui, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir.
Non, évidemment. Évidemment. C'est bien, c'est bien le problème. C'est bien pour ça que ça a été au ralenti. Et puis après, il faut montrer patte blanche sur la capacité qu'on aura à rembourser son crédit dans le futur. Ça veut dire que, si possible, il faut avoir un peu d'épargne de précaution après l'opération pour se dire qu'on peut faire face à un coup dur. Ça veut dire qu'on a fait attention à ce que le saut de charge, c'est-à-dire la différence entre votre loyer actuel et votre future mensualité, soit pas délirante et que vous puissiez l'absorber.
Donc ça dépend vachement des villes, des communes.
Exactement, oui, bien sûr. Il y a des villes où louer, c'est pas très cher, acheter, c'est un peu plus cher.
Et inversement.
Il y a des villes de rendement, d'autres un peu moins. Donc il faut faire effectivement attention à ça. Et puis ce que les banques regarderont avec beaucoup d'attention au moment de l'achat, c'est en réalité la façon dont vous tenez vos comptes bancaires. S'assurer qu'il n'y a pas de...
Ah, faut les nettoyer combien de temps avant?
Bah, au minimum 4 mois avant, dire que...
Donc pas de jeu d'argent, pas de vente privée, pas trop de restaurants.
C'est
quoi qu'il faut éviter? Est-ce qu'il y a un truc qui fait fuir les banquiers?
C'est même pas tant les découvertes en réalité, mais tout ce qui est, tout ce qui dénote ou qui peut laisser penser que vous avez une gestion...
Chaotique,
folklorique
ou une addiction.
Alors tout ce qui est effectivement, si on rentre dans le sujet, tout ce qui est jeu d'argent, poker, casino et société de paris qui sont quand même particulièrement à la mode aujourd'hui. Si on peut éviter d'avoir 10 allers-retours dans le mois avec des plus et des moins et des trucs pas très équilibrés, c'est quand même mieux. Et il faut y penser. Après, tout ce qui est avis à tiers détenteur, opposition administrative, rejet de chèque, prélèvement, etc. Ou pas payer ses impôts, oublier de payer ses impôts. C'est vraiment des très mauvaises idées pour arriver à un moment où vous allez demander justement à une banque de vous faire confiance sur 20 ans. Si vous n'êtes pas capable les 3 mois d'avant d'avoir quelque chose d'un peu... d'un peu blanchi.
On se dit, ça c'est un mauvais élève.
Ouais. Disons que c'est un... Un faisceau d'indices qui est quand même pas franchement en votre faveur. Et même si vous arrivez à vous dépatouiller de ça, vous aurez quand même les coups des moins franches pour négocier un taux de crédit, des conditions de souplesse ou une assurance qui seront en votre faveur, parce qu'on vous fera comprendre que c'est déjà quand même très sympa de pouvoir tirer le crédit avec une gestion aussi personnelle de vos comptes. Donc, il faut être malin et il faut avoir une gestion parfaite. C'est pour ça que je vous dis ça se prépare, parce que 3 ou 4 mois avant...
On fait attention à ses comptes.
On fait attention à ses comptes, surtout quand on est primo-accédant et qu'on a des dossiers qui, en général, sont déjà un peu tendus en endettement, un peu longs en durée d'emprunt. Les primo-accédants empruntent sur 25 ans et où on se dit que l'apport... en général, on a les frais en apport, on emprunte 100% du montant. Donc, ces conseils-là sont destinés évidemment à tout le monde, à plus forte raison pour un premier achat et un premier crédit. Quand c'est votre deuxième ou votre troisième, vous avez un peu votre track record. Vous pouvez expliquer que vous en avez déjà eu 2 avant et que vous les avez remboursés rubis sur l'ongle, qu'il n'y a jamais de rejet, tout s'est toujours bien passé. Quand c'est le premier, on vous fait confiance. Donc, il faut apporter des gages de confiance.
On n'a pas parlé du prêt à taux zéro, le PTZ. C'est vrai qu'il avait été... Bon, il y avait eu des changements et il avait été élargi. Et ça a bien marché. Ouais. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté aussi, vous? Ça vous a apporté
des
clients?
Ouais, en tout cas, ça... là, pour le coup, ça a déclenché quelques comportements à l'achat. C'est-à-dire qu'il y a eu... Il y a eu de très nettes différences entre un dossier classique dans l'ancien et un dossier où dans le neuf, on sait, c'est un peu plus cher forcément puisque c'est des matériaux plus récents et qu'on a une facture ou un prix au mètre carré qui est quand même bien supérieur dans le neuf par rapport à l'ancien, mais avec ces dispositifs sur certains profils et dans certaines zones, ça fonctionne bien et on s'aperçoit qu'il y a des différences très nettes qui se font en faveur des candidats à l'accession à la propriété avec un PTZ qui peut représenter, je le rappelle, dans certaines zones et pour certains revenus jusqu'à 50% de la totalité du crédit que vous allez solliciter. Donc quand vous avez une partie de votre crédit à 3,5 et l'autre partie à 0,
au global c'est pas mal.
Au global la différence elle est très nette et vous arrivez sur finalement des mensualités de crédit qui sont inférieures à ce que vous auriez emprunté pour un appartement dans l'ancien qui présente moins de gages. Évidemment, notamment en performance énergétique ou en travaux à prévoir. Une fois que vous avez, votre bien et qu'il est neuf, en général, les premiers travaux à prévoir sont plutôt aux alentours de 10-15 ans que la mauvaise surprise d'un achat dans l'ancien. Donc, oui, ça, pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné. Les derniers qu'on a mis en place, c'était en fin d'année dernière et ils ont été tirés évidemment avant la fin de l'année. Et puis là, on est dans une période, un peu comme chaque année depuis 2 ou 3 ans, dans une période de transition où on attend la revalidation de tous ces budgets, toutes ces enveloppes pour pouvoir redistribuer du PTZ. On est en février et pour le moment, on n'a que de vagues idées et de vagues indices, mais ce n'est pas très concret pour le moment.
Pas sûr que ce dispositif soit pérenne.
En tout cas, aussi longtemps qu'on aura des budgets qui traînent, qui s'en mêlent, qui ont du mal à être votés, qui font des allers-retours, des navettes, des 49.3, etc. C'est évidemment pas très bon. En tout cas, pour le PTZ, c'est pas très bon. C'est pas très bon pour grand chose, d'ailleurs.
On va parler du développement d'Artemis Courtage, parce que vous êtes en plein développement. Alors, vous avez lancé une campagne de recrutement de plus de 200 postes. Vous avez racheté Crédit Expert.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle stratégie vous êtes, justement?
Bon, c'est une stratégie. En réalité, c'est le redémarrage de notre stratégie, c'est-à-dire que nous on s'est fondé à l'origine, on est une société de courtage en crédit immobilier en assurance emprunteur fondée basée à Paris et puis on a ouvert les premiers bureaux et les premières même dizaines de bureaux Paris et Île-de-France et puis après on a toujours suivi la même stratégie qui était de se rapprocher de réseaux de courtiers indépendants qui avaient plusieurs bureaux. Un ADN proche d'une autre avec des dirigeants qui voulaient continuer avec nous l'aventure un peu partout en France, donc on l'a fait aux quatre coins de la France, on a racheté des réseaux indépendants qui ont rejoint l'aventure Artemis Courtage et qui quelques années après s'appellent aussi Artemis Courtage et on avait entre guillemets d'un point de vue territorial un petit trou dans la raquette dans le Grand Est. On avait 3 bureaux sur une région qui est très dynamique et qui couvre de grandes agglomérations et donc on a eu l'opportunité de se rapprocher d'une société qui s'appelle Crédit Expert de laquelle on s'est tellement rapproché qu'on l'a racheté en mars 2025 et on a terminé une première année quasiment complète ensemble avec de très beaux résultats et donc ça vient participer aussi au redémarrage de notre stratégie qui est d'abord d'avoir de la croissance organique soutenue, c'est-à-dire de faire des résultats meilleurs par voie de recrutement et d'augmentation des performances de nos points de vente. Et puis, pour grandir et se développer un peu plus vite, on rachète quand on estime que c'est le bon moment, la bonne zone, le bon prix, des cabinets de courtage ou des sociétés de courtage de plusieurs bureaux et plusieurs dizaines de courtiers. C'est ce qu'on a fait avec Crédit Expert et l'union se passe très bien, ça fonctionne très bien. Ça a participé aussi, évidemment, au bon résultat du groupe en 2025.
Mais là, ça va faire un an, du coup, c'était un marché.
Ça va faire, exactement,
25.
On va fêter nos 1 an. Et puis, l'autre biais, il est toujours le même, c'est-à-dire qu'on est une société qui recrute, qui forme, qui fait monter en compétences, qui intègre des jeunes qui souhaitent...
rester indépendants.
Soit rester indépendant, soit se salarier. En réalité, moi, j'ai les deux modèles dans mon réseau.
Vous proposez les deux, en tout cas.
Oui, je propose les deux. Et c'est à peu près 50-50, d'ailleurs, dans le réseau.
Donc 50% de, on appelle 50% des mandataires, de salariés, des conseillers.
C'est ça, 50% de salariés, 50% de mandataires qui font le même métier de conseiller en crédit immobilier, en assurance emprunteur. Et donc je continue à recruter, à former et à faire monter en compétences. La dernière session de formation qui a démarré début février, c'est une quarantaine de personnes qui sont au siège à Paris et qui seront formées en formation initiale sur des premiers modules théoriques pendant une quinzaine de jours, et après ils feront des allers-retours entre les différentes agences de toute la France et des retours à Paris pour confronter D'accord. leurs expériences du terrain avec des nouvelles salves de théorie. Et cette année, j'ai 6 sessions qui sont au programme. Donc on est rentré en 2026 avec beaucoup d'ambition et un marché qui est un marché, on va dire, dans la veine de la fin de l'année 2025. C'est-à-dire plutôt porteur et qu'on pense être un marché de consolidation okay. sur une année 2025 qui avait été une année effectivement de retour aux affaires et à la normale. On pense que 2026 sera dans la veine, voire même légèrement supérieur à ce qui s'est passé en 2025. Donc plein de confiance pour cette nouvelle année.
Alors vous avez dit que vous rachetez des agences, vous avez ouais. des franchisés
On en a quelques-unes, ouais. ça a été le cas il y a... une dizaine d'années, on a...
vous en avez plus avant. Hein.
On en avait... Bon, on n'a jamais été un gros réseau de franchises. Ouais. En réalité, on a ouvert des franchises, entre guillemets, par opportunité à l'époque, sur des demandes dans certaines régions dans lesquelles on n'était pas, parce qu'on était un réseau, je vous le disais, francilien et parisien. Et
donc puis, c'était l'occasion, c'était...
Ouais, c'était l'occasion et c'est par opportunité. En réalité, la dizaine de franchises qui restent sur la centaine d'agences aujourd'hui Artemis, c'est des franchisés qui sont là depuis au moins 10 ans et avec D'accord. qui on fait une longue route ensemble. On se connaît très bien, ça ouais. fonctionne parfaitement.
Il n'y a pas de mauvaise surprise.
Il n'y a pas de mauvaise surprise et très sincèrement, on est ravis de faire la route ensemble. Mais c'est pas la stratégie de développement de 2026 à 2029.
Ouais. Voilà. Donc là, c'est plutôt du rachat d'agences
ou de l'ouverture
d'agences.
Ouais, tout à fait. En propre.
Un mot pour terminer pour les perspectives 2026. À quoi vous vous attendez cette année ?
En termes de taux de crédit ?
Oui, pour votre secteur.
Sur le volume, moi je m'attends. Alors les soubresauts peuvent être nombreux et on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'événements extérieurs
ouais, géopolitiques qui peuvent influencer.
Notamment et on n'est jamais vraiment tranquille de ce côté-là.
Vous regardez ce qui se passe du côté des États-Unis par exemple.
Par exemple, ouais, je regarde tout ce qui peut avoir des répercussions en réalité sur les marchés obligataires, sur les taux de crédit, sur la confiance des banques et des ménages. Ça bouge à peu près. Enfin, je veux dire, on peut se réveiller avec une mauvaise nouvelle ou en tout cas quelque chose ouais. qui est pas très accommodant. Donc, on regarde ça évidemment avec beaucoup d'attention. En réalité, on s'aperçoit qu'il y a aussi une certaine forme de résistance ou de résilience à ces nouvelles trop nombreuses et qu'en dépit de plusieurs guerres, de moments qui sont pas très sympas, d'une inflation qui avait bondi. De nouvelles aux États-Unis qui n'étaient pas très favorables, droits de douane, etc. On s'aperçoit que les taux de crédit sont relativement stables. Moi, je m'attends pas franchement à une flambée en 2026.
On a l'impression qu'on s'est habitué à tous ces, événements, ouais. hélas. Enfin,
faut jamais s'habituer au pire, mais en réalité, c'est vrai que ça fait plus trop. En tout cas, les soubresauts, ils sont.
Ils sont plus petits.
C'est ça, ça amortit quand même pas mal, que ce soit sur les
marchés obligataires.
C'est ça. BCE qui a un discours plutôt
Là, on est sur
rassurant.
Un statu quo.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'annonce de baisse de taux directeur. On est sur des taux OAT 10 ans qui sont relativement stables, qui s'étaient appréciés légèrement, et des taux de crédit qui sont en réalité, qui n'ont pas vraiment bougé depuis mars 2025. Des ajustements à la hausse et à la baisse, mais les barèmes, il y a des banques qui n'ont pas bougé leurs barèmes depuis plusieurs mois, et puis d'autres qui... en fonction de leurs objectifs commerciaux, les augmentent ou les baissent, c'est relativement stable. C'est aussi pour ça que je vous dis qu'on est relativement confiant dans cette année 2026, c'est que c'est dans des contextes de stabilité où les emprunteurs reviennent et les acquéreurs ont des envies d'achat. C'est quand en réalité on peut se projeter, on se dit que c'est un contexte stable.
Bien sûr.
Et qu'on va emprunter à la même chose qu'hier sans avoir peur que les taux flambent et qu'on puisse pas emprunter parce que sa capacité d'achat a diminué.
Et en revanche, il y a des disparités entre les banques, hein. D'où l'importance de faire appel à un courtier.
Il y en a, il y a des disparités entre les banques et il y a même des...
Donc des banques qui ne pratiquent pas les mêmes taux.
Non, que ce soit évidemment entre elles ou en fonction des régions.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des banques mutualistes ou régionales qui ont des grilles de taux complètement différentes en fonction qu'elles prêtent à Lille, Colmar ou à Marseille. Et puis elles ont même des politiques de taux qui sont différents en fonction des profils. On s'aperçoit qu'il y a des différences de taux en fonction de l'objet de votre prêt ou en fonction des emprunteurs qui peuvent être très conséquents à l'intérieur d'une même banque. Et nous, notre job, c'est de se retrouver dans cette jungle de produits de banque et de différents profils et de prêts aidés, etc., prêts bonifiés, pour optimiser au maximum l'emprunt pour lesquels les clients nous sollicitent.
Donc vous allez faire le tour des banques et par exemple, si un emprunteur habite à Lyon, il peut très bien se voir son dossier accepté par une banque qui est en Bretagne, par exemple. Ça, c'est possible.
S'il a, on va dire que...
Le profil qui intéresse la banque.
Ouais, et s'il a quand même une belle histoire à raconter et un rapport avec cette banque, c'est-à-dire s'il est originaire de Bretagne, que ses parents y sont, qu'il y a fait ses études, qu'il y a encore une maison ou une attache en particulier. Mais en réalité, quand les banques prêtent pour une résidence principale, elles attendent quand même qu'il y ait des contreparties. Alors je sais que maintenant tout est digitalisé, qu'on rend visite à sa banque une fois par an dans les bonnes années.
Voire jamais,
etc., etc. Mais en réalité, les banques de réseau, en tout cas, demandent quand même qu'il y ait un minimum de rapport entre la
un
banque qui va tirer le crédit et le lieu d'habitation ou le lieu de travail ou l'origine des emprunteurs. Quand je dis origine, dans votre exemple, vous travaillez à Lyon, mais vous êtes originaire de Bretagne, vous pouvez très bien interroger BNP Rennes et le Crédit Mutuel de Bretagne, ça ne posera pas de problème. S'il n'y a aucun lien entre la Bretagne et votre projet à Lyon, ça va être un peu plus compliqué.
Eh bien, merci beaucoup Ludovic Usieux pour cet éclairage sur le marché du crédit. On se retrouve très bientôt sur Radio Immo.
Radio Immo, la parole aux pros de l'immobilier.